Et si la perte de poids ne se résumait pas seulement à la balance des calories, mais surtout à ses habitudes et ce que l'on met dans son assiette. Et quand je dis ce qu'on met dans son assiette, je parle aussi de qualité. Car il est clair que l'approche des régimes restrictifs associés à un cardio intense, qui sont prônés depuis des années par certains, et encore maintenant pour perdre du poids, ne fonctionne pas souvent. Les études montrent que de nombreuses personnes reprennent tout leur poids et on accuse même les régimes de faire grossir. Cela vient souvent de régimes qui sont trop restrictifs, de pertes de muscles importantes, de sensations alimentaires brouillées, d'un métabolisme endommagé. Avec mon invité, nous explorons ces questions et elle ne prône pas une restriction calorique, mais une autre manière de manger qui passe par la réduction des glucides et aussi par la meilleure compréhension de son métabolisme. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la grande forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Une semaine sur deux, je pars à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et une semaine sur deux, je vous propose un focus sur des grandes questions, sur des mythes de la nutrition et des questions que vous me posez. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer des sujets et poser vos questions. Le but, c'est que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir en forme, bouger plus, mieux bouger, mieux nous entraîner, mieux récupérer, pour réussir nos défis, devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sophie Gironi. Je dois le dire, Sophie est probablement la personne la moins sportive parmi tous et toutes mes invités. Cet épisode ne sera donc pas sur la nutrition sportive en tant que telle, mais toujours dans cette approche de la nutrition pour être en forme, pour perdre du poids aussi, et la logique d'avoir une bonne nutrition pour être en forme avant de s'intéresser à la partie purement nutrition sportive pour réussir ses défis et ses courses. Vous le savez, dans ce podcast, nous avons eu des visions opposées. Nous avons eu les adeptes du low carb et même du cétogène dans un esprit sport et performance, de même que nous avons eu des invités qui témoignent d'une consommation de glucides très très importante. Ce sont parfois des visions qui sont poussées au plus loin dans le cadre sportif, mais qui je trouve sont parfois compliquées à corréler et à aligner avec nos objectifs de santé, de vie sociale et d'être bien dans notre corps. Je l'ai moi-même expérimenté, même en courant tous les jours, j'ai pris du poids et du gras. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer cela, mais ça vient de mon alimentation, mais aussi de ce que j'ai pu faire avant et qui a pu perturber mon métabolisme. Sophie Gironi est dans une autre optique que le sport, elle accompagne des femmes en grand surpoids et qui ont souvent essayé toutes les méthodes traditionnelles comme les régimes, le cardio à fond, mais qui ont fini par grossir encore plus. Sophie connaît bien ce problème, elle a perdu beaucoup de poids, 40 kilos. Elle est d'abord passée par une phase d'alimentation carnivore, a eu une mauvaise expérience avec un nutritionniste qui a été pas très sympathique avec elle. Et puis elle a décidé de se former pour mieux comprendre le fonctionnement du corps, le métabolisme et l'alimentation. C'est ainsi qu'elle en est venue à l'alimentation réduite en glucides, dans une optique de perte de poids, de santé, mais aussi de bien-être au quotidien. D'ailleurs, nous parlons dans l'épisode de son livre « Bien manger pour réussir » qui pointe bien certains aliments qui peuvent poser problème. Et cette optique de réussir, c'est pas seulement dans le sport, c'est aussi dans notre vie quotidienne, notre vie personnelle, notre vie professionnelle. La mission de Sophie, c'est d'aider ses clientes à relancer leur métabolisme en comprenant comment mieux manger. Mais pas seulement, car nous avons aussi parlé du stress, des émotions ou des habitudes. Son credo est que la santé repose bien plus sur ce que l'on met dans son assiette que sur ce qu'on en enlève. Dans cet épisode, nous parlons donc de ce qu'est l'alimentation réduite en glucides et ce que ce n'est pas, de pourquoi l'approche classique ne fonctionne pas toujours dans la perte de poids, de l'impact du sucre et des autres aliments dont il faut se méfier, de certains faux amis aussi, pourquoi aussi le beurre est son aliment fétiche et pourquoi finalement elle va aussi se mettre au sport même si elle n'a pas l'âme d'une sportive. Et avant de vous laisser avec mes discussions avec Sophie, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous partageons des conseils de sportifs, de coachs, de spécialistes de l'alimentation qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels et des ingrédients bruts à cuisiner. Et je dois dire que même si Sophie égratignait un peu mon beurre de cacahuète, je n'y renonce pas pour autant. D'ailleurs, mon fournisseur préféré, ainsi que pour la purée d'amande cannelle vanille, est Coro, K-O-R-O.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et a opté pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, j'ai négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, K-O-R-O.fr et utiliser le code HAMSTERS5 pour en profiter. Le lien est dans la description de l'épisode. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Sophie. Allez, c'est parti! Bonjour Sophie.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Pour la saison.
Pour la saison, alors toi la saison, remarque, je sais pas où t'es, et tout à l'heure je me fais la réflexion, je me dis en fait il faudrait que je t'invite presque sur mon autre podcast pour parler de ton mode de vie, le van, enfin le camion, etc. et tout, ton organisation, parce que c'est super intéressant, mais on n'est pas là pour parler de ça, même si je trouve que,
Non.
peut-être tu me diras, il y a peut-être un lien, je sais pas, entre comment tu fais, comment tu t'organises, comment tu t'alimentes, comment tout ça. Il y a peut-être des liens, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Mais je trouve en tout cas que là, donc, t'es où? T'es dans quelle partie de la France là?
Alors là, je suis en France. Je suis rentrée de mon trip hivernal en Espagne-Portugal. Je suis dans le sud de la France, sur ce que j'appelle moi la Côte d'Usure, puisque c'est de là qu'on est originaire et on a un appartement ici. Donc on est rentré voir un peu la famille pour une dizaine de jours avant de repartir en Corrèze, là où on a acheté une grange à rénover et où on passe les 4, 5, 6 mois d'été en fait.
Voilà, donc voilà, c'est ce que je cherchais. Je savais que tu étais rentré en France, j'avais vu que tu étais entre la Corrèze et tout. Je me disais, ouais, il y a des grands écarts quand même qui sont très intéressants. Bon, alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors, bien entendu, tu as un parcours qui est long, riche, etc. et tout. Et je pense que les gens, quand ils iront sur ton site, ils verront tout ce que tu as fait. Mais on va
Vais
rester dans la
faire
partie
court.
nutrition, en fait.
Promis, je fais court,
Comment tu as
promis.
découvert ça? Comment tu es arrivé dans ce domaine-là? Parce que c'est pas dans tout ton domaine de départ.
Absolument pas. Alors moi, je suis une fille du web. J'ai travaillé pendant 20 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing digital. À l'époque, ça s'appelait les NTIC. Tu te souviens?
Bah, j'ai un diplôme en NTIC et j'ai un
Voilà.
DSS en NTIC, moi. Alors, autant
Voilà.
dire que je
Donc
suis un vieux.
c'était. Voilà, bah pareil, c'est la mamie du web qui vous parle. Et en fait, en parallèle, moi j'ai été obèse jusqu'à l'âge de 30 ans, pour tout un tas de bonnes raisons, génétiques, environnementales, comportementales, parce que issue d'une famille où on mangeait beaucoup de glucides, où c'était la famille italienne, la pasta tous les jours, etc. J'étais un bébé trop maigre quand je suis née, je pesais 2,6 kg. Et du coup, à l'époque, les médecins, ils recommandaient pour avoir des gros bébés de mettre des farines dans les biberons. Donc en fait, moi, je suis devenue résistante à l'insuline avant l'âge d'un an, si tu veux. Donc après, bah, j'ai été une enfant bien en chair, une ado en surpoids et une jeune adulte en obésité jusqu'à l'âge de 30 ans. Et en fait, j'ai eu ma fille, j'avais 27-28 ans, et je comprenais pas pourquoi moi, alors que je mangeais comme mon mari, je pesais des 100-105 kilos. J'avais l'impression de faire attention. J'ai été élevée dans une famille où on mange sain, même si on mange de la pasta, c'est la pasta maison, tu vois, les produits transformés, tout ça. Il n'y avait pas la malbouffe, il n'y avait pas. Et je comprenais pas. Et en fait, ça me titillait parce que c'était pas une question. J'ai jamais été complexée par mon apparence, tu vois. C'était même pas une question de bien-être, même si le fait d'être gros, c'est douloureux. Faut quand même pas se mentir, hein, c'est une douleur, l'obésité. Mais c'était putain, mais je comprends pas quoi. Pourquoi je suis pas en bonne santé? Pourquoi est-ce que mes analyses, elles sont nickel? Parce que j'avais des analyses nickel. Et je fais que grossir alors que je mange pas plus que quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à mon poids, je pense parce que je suis devenue maman et que la notion de d'être en bonne santé pour ma fille, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc j'ai vu un premier nutritionniste qui m'a prescrit un plan de repas. Quand j'y suis retournée le mois d'après, j'avais pris 4 kilos.
Oups.
Ouais. Et j'avais pas de balance à l'époque et j'étais arrivée, j'étais super contente. Ouais, super, j'ai tout bien fait ce mois-ci, je me suis tenue au polycopier à la con et tout, ça va être super, ça va être super. Je suis arrivée, je pesais 4 kilos de plus et cet abruti bête, le seul truc qu'il a trouvé à me dire, c'est « Mais vous savez, si vous vous levez la nuit pour manger, vous pouvez me le dire. »
Oh, le vache. Putain.
Ouais. Tu la sens la culpabilisation du gros, quoi. T'es gros, c'est de ta faute, tu fais que bouffer.
Wow.
Donc, ouais, non, j'avais adoré. Donc, j'étais partie en très mauvais termes avec ce monsieur, je lui avais pas payé la consultation. Et j'ai trouvé un autre nutritionniste qui, à l'époque, était un uluberlu. Il était considéré comme un fou par les autres médecins de la Côte d'Azur. Parce qu'il s'intéressait à ce qu'on appelle la cétose, tu vois, la résistance à l'insuline, la santé métabolique, etc., qui étaient des choses à l'époque, enfin, tu te rends compte, c'était en 2006, quoi.
Oui, c'est
Voilà,
ça,
quoi.
c'est que on en parle beaucoup maintenant,
Ouais, mais en
mais
2006, c'était
voilà, tu parles il y
inconnu.
a pas 20 ans,
Voilà.
mais
Même
c'est
moi,
digitaux, quoi.
j'étais sur le web de manière extensive et quand je cherchais des infos sur le sujet, j'en trouvais pas sur Internet à l'époque. Donc. Et en fait, il m'a permis, ce monsieur, en 2 ans, de perdre 40 kilos. en me faisant pratiquer une alimentation. Alors pour le coup, c'était une alimentation carnivore, voilà. Parce que il m'avait expliqué tout un tas de choses par rapport à ma résistance à l'insuline, par rapport à mon pancréas, par rapport à ma réaction aux glucides, etc. Et j'ai perdu 40 kilos avec des phases de carnivore et puis de retour à un peu de légumes, un peu de fruits, un peu de féculents. Chaque fois qu'on revenait au féculent, je reprenais du poids. On repartait en carnivore. Au final, j'ai perdu 40 kilos. Et c'était top. Et puis j'ai compris surtout plein de choses sur mon métabolisme, en fait. Chaque fois que j'y allais, je lui posais des milliers de questions parce que je voulais tout comprendre. Et puis un jour, j'ai eu reçu un coup de téléphone. J'avais rendez-vous le lendemain pour le voir. Et son assistante m'a annoncé qu'il était décédé en 3 semaines d'un cancer du pancréas. Et là, je me suis retrouvée complètement désorientée, désemparée, en fait. Comment je fais? J'ai plus de référent. Et du coup, bah, j'ai essayé de devenir mon propre référent. Donc, on était en 2008. C'était compliqué. Il fallait trouver des ressources, il fallait trouver des infos. J'ai commencé à lire des études en anglais auxquelles je comprenais absolument rien parce que lire une étude, quand t'as pas un background médical, faut s'accrocher, quoi. Tu vois, même si t'es un peu bilingue en anglais, c'est de l'anglais médical, quoi. C'est pas simple. Et depuis 2008, en fait, j'ai pas arrêté de m'informer. Et quand sont arrivés les premiers livres sur la réduction des glucides, sur le kéto, sur l'inversion du diabète, sur le jeûne, le code obésité de Jason Fung, etc., j'ai dévoré, 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 dévoré. Et puis, à un moment donné, dans ma vie, il y a eu ce changement de vie qui s'est initié de passer de dire comme chez Gandhi.net à vanlifeuse, avec tout un tas d'autres choses qui vont autour. Et je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est le moment. Et ça coïncidait aussi avec le moment où Terry Souquard m'avait demandé d'écrire un livre de recettes parce que j'avais un blog où je partageais mes recettes réduites en glucides. Et du coup, bah, ça, en quelques mois, on va dire, c'est parti comme ça. On a commencé à me demander du coaching. Moi, j'ai dit, je ne sais pas faire de coaching, ce n'est pas mon métier. Donc, j'ai fait ce que je savais faire, un programme en ligne. Ouais, tu fais du marketing digital, tu connais les outils du web, tu fais un programme en ligne. Et comme ça a super bien démarré, bah, je me suis dit, OK, ma reconversion, elle est là. Et je me suis formée. J'ai suivi 2 cursus chez The Nutrition Networks. Et puis, du coup, après, j'ai lancé du coaching individuel. Et voilà, ça fait depuis 2019 que j'accompagne les gens en gros surpoids à retrouver leur santé métabolique.
Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu étais dans un parcours et où je pense que tu retrouves tes clients dans le même cadre, c'est que il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans ce qu'on fait classiquement. C'est-à-dire que la méthode classique de mon nutritionniste, qui n'était pas sympathique, mais qui probablement, ça a peut-être marché
Elle
avec d'autres
fonctionne pour
personnes.
80% des gens. Non,
Voilà.
mais le truc, c'est que moi, je dis toujours, la réduction calorique, la restriction calorique et le retour à une activité, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner pour 80% des gens. Ça peut fonctionner pour 80% des gens une fois, ça va pas fonctionner forcément longtemps. Ça, c'est autre chose, parce que la restriction calorique, elle a des effets de bord qui font qu'au bout d'un moment, ça marche plus. Mais en première intention, ça peut fonctionner pour 80% des gens, mais pour 20% des gens, ça suffira pas. Et en fait, ces 20%-là, ils sont souvent déconsidérés par la médecine, les nutritionnistes, les diététiciens, parce que comme cette fameuse alimentation équilibrée, ce rééquilibrage alimentaire fonctionne pour 80% des gens, si ça fonctionne pas pour toi, c'est ta faute parce que tu fais pas bien, en fait.
Bah oui, tu te lèves la nuit pour manger, j'ai de dire, franchement.
C'est ça. Tu te lèves la nuit pour manger, ou tu respectes pas les règles, ou tu bouges pas assez ton cul, ou ceci, ou cela. Or, c'est beaucoup. Quand tu commences à comprendre comment fonctionne le métabolisme, tu te rends compte qu'en fait, les gens qui font du sport, c'est parce qu'ils savent utiliser l'énergie qu'ils consomment pour la transformer en énergie. C'est pas parce qu'ils ont envie de faire du sport. C'est dans l'autre sens, en fait. Et les gens qui font du gras, c'est parce que leur métabolisme, il sait pas utiliser l'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, il utilise l'énergie pour fabriquer du stockage. C'est juste ça, c'est un switch en fait.
Ouais, mais ce switch, en fait, t'as dit plein de mots, en fait. T'as parlé de carnivore, qui est une tendance qui revient, en plus. Enfin, je sais pas si c'est parti ou pas, mais je vois une communauté, en plus, sur Fred. Moi, j'appelle Fred, hein, parce que toi, t'as Gary le camion. Moi, j'ai Fred, mon ami de discussion. J'appelle Fred. Sur Fred, tu sais, tu l'as vu passer ce message de la Suisse, là, qui est carnivore, qui dit, je mange 3 steaks au petit déjeuner, je mange pas de légumes, je mange pas de trucs comme ça et tout. Puis t'as toute la communauté, un peu, l'homme alpha et compagnie, qui dit, ah, moi, je mange que de la viande, etc. Enfin, ce truc-là qu'on voit très, très, très fortement, qui vient d'ailleurs, un peu à l'opposé de tout le truc en disant mais il faudrait réduire la viande, et puis qui vient à l'opposé de tout un tas de documentaires Netflix qui vont promouvoir le véganisme.
Financé par l'industrie de la viande
Et oui.
artificielle.
Et financé par l'industrie de la viande artificielle et tout. Donc il y a tout un tas de cheminements et tout comme ça. Toi, tu te positionnes comment? Parce qu'on a fait un épisode avec Olivier Maria, que tu connais bien, sur
Oui,
le
très bien.
cétogène sportif et tout. Alors il y a plein de gens qui disent ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Sauf que
Bah,
ça
essaye
marche.
déjà.
Ça marche.
Essaye déjà, tu vas voir,
On a fait des
avant de dire que
épisodes
ça
avec
marche pas.
comment s'appelle avec oh, j'ai perdu son nom, mais sur le low carb, tu vois, sur cette frange low carb, sport, low carb, etc. où déjà on a une belle réduction. Mais c'est vrai que toi, tu positionnes comment en fait par rapport
Alors,
à
moi,
tous ces
c'est hyper
trucs-là?
compliqué parce que moi, je ne me positionne pas, je n'ai pas de religion.
Ouais.
C'est assez. J'essaye souvent d'expliquer ça à mes clients. Moi, j'ai deux certitudes. Deux. Trois. Trois. J'ai trois certitudes. Les produits transformés, c'est de la merde.
Ça, on partage
Et la
tous.
problématique, ouais, mais on partage tous, sauf qu'on ne met pas la même chose derrière le mot transformé. Parce que typiquement, du bon pain blanc de chez ton boulanger, c'est un produit transformé.
Ouais, je suis
Tu peux le
d'accord.
tourner dans tous les sens, mais la farine de blé, c'est un produit transformé. Et de plus en plus, et le blé devient lui-même quelque chose de totalement artificiel parce que son mode de culture est absolument aberrant. Donc, je suis contre les aliments transformés. Et ça veut dire pas de céréales non plus. C'est-à-dire, ouais, les céréales, c'est bien, c'est plein de fibres. Si tu es capable de les manger entières, c'est une chose. Mais à partir du moment où elles sont transformées, c'est un produit transformé. Et ça ne rentre pas dans ce que moi j'appelle les produits transformés. Non, niet, pas de produits transformés. Zéro produit transformé. C'est ma toute première conviction. Et après, c'est toujours pareil. Moi, j'explique toujours, zéro produit transformé. Au quotidien, c'est pas parce que de temps en temps tu vas manger un morceau de pain que tu vas en mourir, mais dans ton alimentation de tous les jours, il ne faudrait pas intégrer de produits transformés. La deuxième certitude que j'ai, c'est que le sucre, c'est un poison. Et ça, je suis pas la seule à le dire, hein, l'OMS aussi le dit, sauf que y a plein de nutritionnistes et diététiciens qui te disent que non, non, il faut manger du sucre, c'est important. C'est le premier carburant de ton cerveau. Attention, hein! Tu vois, donc, moi, ça me fait halluciner, hein. Je veux dire, j'ai une diététicienne à l'hôpital qui a dit un jour à ma fille, on était là pour faire des examens, oh, mais tu peux mettre du sucre dans ton yaourt, tu sais, les diabétiques, on leur met du sucre et puis on augmente juste l'insuline. Ok, t'as pas tout compris, madame. Donc, il y a vraiment cette problématique-là. Le sucre, déjà, c'est un aliment transformé, hein, parce que le sucre, ça n'existe pas à l'état naturel. Et parce que le sucre, tel qu'on l'utilise dans les pâtisseries, tel qu'on l'utilise dans l'industrie, parce qu'on met du sucre dans absolument tout dans l'industrie, c'est des sucres qui sont hyper nocifs parce que c'est du fructose concentré. Et on sait que le fructose concentré, il est hyper mauvais pour le foie et pour toute la santé métabolique. Donc, zéro produit transformé, y compris les céréales transformées, zéro sucre. Et l'autre chose dont je suis certaine, et là ça va faire grincer des dents, c'est qu'il n'y a pas mieux que les protéines d'origine animale pour nous apporter l'ensemble des acides aminés et des acides gras dont on a besoin en tant qu'être humain. Je peux entendre toutes les convictions éthiques. Je peux entendre tous les problèmes de goût. Je peux entendre toutes les convictions politiques par rapport à l'écologie. Mais la science, elle est là. Ça fait un million d'années qu'on mange de la viande. Ça n'est pas la viande qui nous rend malade aujourd'hui. Et la viande, ça reste la première source. La viande, les œufs, hein, que ce soit la volaille, le bœuf, etc. Mais les produits d'origine animale, ça reste ce qui a permis à l'être humain de devenir un être humain. Et c'est aujourd'hui la ressource, les aliments dans lesquels les nutriments sont les plus biodisponibles, les mieux absorbables et les plus complets. Pour remplir ce que j'appelle nos jauges d'acides aminés et d'acides gras. On a un besoin minimum vital d'acides aminés pour construire et maintenir nos fonctions cellulaires. Si tu manges pas assez de viande ou si tu manges pas assez de protéines, tu te mets en danger de mort. C'est aussi simple que ça. Et je pense que si déjà on arrive à respecter ces trois choses-là, quoi, pas de produits transformés, zéro sucre et suffisamment de protéines de qualité, on résoudrait une grosse quantité des problèmes de santé métabolique aujourd'hui.
Mais tu vois, en plus, tu dis que ça va faire grincer des dents sur l'histoire de la viande et tout. Je crois que moi, j'ai eu plein d'invités où le vrai gros problème en fait de la viande, c'est plutôt les conditions d'élevage, de tout ce qui va derrière
Oui, mais c'est ce
l'industrie.
que je dis, c'est les convictions politiques,
Ouais.
éthiques, etc. Sauf que moi, un jour, on m'a dit, mais t'as pas honte de recommander de la viande, etc. J'ai dit, moi, Je suis là pour aider les gens à aller mieux et à être en bonne santé. Scientifiquement, le corps a besoin d'acides aminés de qualité, d'acides gras de qualité, qui sont plus biodisponibles, plus nombreux et plus variés dans les produits d'origine animale. C'est la science. Les faits sont têtus, c'est la science. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dévoient cette science parce qu'ils sont des biais éthique, des biais politiques, des biais écologiques. Mais c'est pas ça, la réalité scientifique. Donc, je peux entendre ces biais-là, je peux entendre ces arguments-là, et je trouve ça ignoble de voir comment on traite les animaux dans les élevages intensifs, etc. Moi, j'achète ma viande en Corrèze chez l'éleveur du coin, hein, le bœuf des Cantalous, ça s'appelle. Je leur fais un peu de pub, ils font de la livraison en ligne. Je connais les vaches, je les vois les vaches, et elle tue sa vache que quand elle a vendu tous ses colis de viande pour pas faire de gâchis. Et je vais chercher la viande à son labo, et elle est sous vide, et elle est délicieuse, et elle est bien traitée, etc. Oui, les problèmes d'élevage, mais ça n'empêche pas que scientifiquement, les viandes, ce sont les aliments les plus nutritionnellement denses pour le corps humain. Point, quoi. Tu vois, il y a. Mais ça fait grincer des dents pour des convictions éthiques, pour des convictions écologiques, pour des convictions religieuses aussi. Mais ça serait comme dire, moi, je suis diététicienne et je suis de confession juive, donc je dis que le porc, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est une religion. Tu vois? Et là, c'est pareil. Il y a un mélange des genres entre la vérité scientifique, physiologique, et tous ces biais-là qui viennent faire dire des choses. Moi, j'entends des gens dire que la viande, c'est hyper dangereux et qu'ils sont véganes parce que la viande, c'est dangereux pour la santé. Parce que ça renforce en fait leur conviction, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de scientifique derrière.
Mais tu sais que bon, le véganisme sur ce podcast, c'est un gros sujet parce qu'on s'est fait allumer, mais on s'est fait allumer et tout le monde pense que je suis anti-végan parce que j'ai invité des gens qui disaient attention, quand on a un régime végan, on est en risque de carence. Et on me dit oui, mais il y a des champions qui sont végans et tout. Alors, je dis à ceux qui sont en train d'écouter, qui pensent que j'ai dans ma liste d'invités potentiels des véganes, je le dis bien, dans ma liste d'invités potentiels, j'ai des véganes qui font du sport de haut niveau. Donc pour
Mais
montrer que c'est
j'ai
possible.
ouais, mais c'est possible. Mais ce que je dis toujours, c'est si ce que tu fais te permet d'être en bonne santé, c'est nickel.
Voilà.
Mais à partir du moment, moi je vois des gens, et c'est hallucinant de voir, je vois des gens se plaindre d'avoir des problèmes de santé mentale. Je vois des gens en obésité. Je vois des gens qui ont des problématiques, des maladies cœliaques, qui ont des problématiques d'inflammation, etc. Et qui s'obstinent à dire non, non, l'alimentation végane, c'est la meilleure pour la santé, etc. Et qui sont pas en bonne santé. Et j'ai fait un podcast il y a quelques semaines avec Perrine, qui est une coach en alimentation ancestrale. Et elle expliquait en fait qu'elle est passée d'un véganisme vraiment super super fort, où elle était hyper convaincue, à une alimentation carnivore, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'abîmer sa santé. Et en fait, la problématique, elle est là. Oui, le véganisme, ça peut fonctionner pour des métabolismes super, super costauds, bien équilibrés, etc. Mais ça ne fonctionne pas forcément pour tous. Et ce qui compte, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis agnostique en alimentation, je n'ai pas de religion alimentaire. Pour moi, à part les produits transformés, le sucre et l'importance des protéines, le reste, chacun fait ce qu'il veut tant que ça fonctionne pour lui.
Comment, sur ton site, ta méthode en tout
Oui.
cas, c'est la réduction des glucides. Et tu finalement, tu as parlé du sucre, on a parlé de la transformation. Comment, alors le sucre, bon, là c'est bon. Comment toi tu vois le lien finalement entre ces grands piliers que tu as comme ça avec ta méthode? La réduction des glucides, etc.
Ben,
Et
en
en
fait,
quoi ça
c'est
améliore la vie
assez.
des gens?
Alors, en fait, c'est assez rigolo, mais j'en parlais cette semaine parce que je fais un live toutes les semaines avec mes clients et on parlait de pourquoi est-ce que ça marche la réduction des glucides, et je leur parlais de transformation. Et en fait, quand tu mets un gros mot valise comme ça autour de réduction des glucides, tu te rends compte que qu'est-ce que tu fais? Ben, t'écartes 90-95% des aliments transformés. Déjà, à la base, quand tu veux réduire les glucides, bah, t'enlèves toutes les farines. Donc déjà, t'as enlevé les farines raffinées, qui aujourd'hui sont reconnues pour être inflammatoires et poser des problèmes de résistance à l'insuline, qui est la condition de base pour toutes les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, etc. Donc, quand tu enlèves ça, si tu veux, tu as déjà fait une grosse partie du boulot. Et en fait, j'ai appelé mon programme ARG, programme ARG pour alimentation réduite en glucides, parce que pour moi, il y a trop de mots, d'étiquettes, le keto, le low carb, le LCHF, le carnivore, etc. Mais à la base, toutes ces alimentations-là, elles portent sur le même principe, réduire la charge glycémique de tes repas pour éviter le pic d'insuline, pour limiter la résistance à l'insuline. Donc, si tu veux, le point commun de mon programme avec les aliments transformés, le sucre et la viande, c'est que d'un côté, tu vires les aliments qui sont délétères pour ton métabolisme, les sucres et les aliments transformés, et de l'autre, tu relances ton métabolisme, parce que c'est le point dont on a parlé tout à l'heure. Bien souvent, les gens qui ont cherché à perdre du poids, ben, ils ont ralenti leur métabolisme en ne leur apportant pas assez de nutriments. Or, pour qu'un métabolisme fonctionne, pour qu'un métabolisme tourne rond, comme je dis, il faut lui apporter le bon carburant. Et le bon carburant, c'est suffisamment d'acides aminés et suffisamment d'acides gras. Donc, si tu veux, le point, il est là, en fait. La réduction des glucides, c'est la porte d'entrée. Parce que déjà, tu déprogrammes ton métabolisme en réduisant les glucides, tu réduis sa tendance à stocker. Et après, tu rajoutes les bons nutriments pour relancer ton métabolisme et l'autoriser à déstocker et à être en bonne santé.
Ce qui est intéressant, c'est dans ton livre, parce que t'as pas dit le titre de ton livre, c'est Bien manger pour réussir.
Ouais. C'est mon quatrième bébé, ça.
Ouais, t'as placé des choses dans les grands vilains. Et t'en as pas parlé là de ce
Ouais.
grand vilain d'ailleurs, parce que t'as trois grands vilains: junk food, bon, là on comprend,
Aliment
sucre et
transformé.
alcool. Et t'en as pas parlé de ton grand vilain du sucre, de l'alcool.
Ouais, c'est compliqué. C'est super compliqué. En fait, déjà, c'est super compliqué en France parce que gastronomie, secteur viticole, champagne, machin, bla. On a cette culture de boire de l'alcool dans le cadre d'une alimentation normale, plaisir, machin. Mais en fait, alors, ça va être très vulgaire, hein. Mais moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est qu'à chaque fois que tu bois un verre d'alcool, tu mets un grand coup de pied dans les couilles de ton métabolisme. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu bois de l'alcool, ton métabolisme, il pense plus qu'à ça. Comme quand on te met un grand coup de pied dans les couilles. C'est pareil, il pense plus qu'à ça. Du coup, il essaye d'évacuer au maximum l'alcool le plus rapidement possible et ça impacte tous les autres processus physiologiques. Et le foie, il est au cœur de milliers de processus physiologiques qui vont de ton rythme circadien à ta capacité à déstocker en passant par ton acide biliaire, ta digestion, ta circulation du sang. Enfin, tout, il est au cœur du truc, le foie. C'est vraiment l'élément central de ta santé métabolique. Et quand tu fais des efforts pour manger mieux, bouger plus, faire attention à ton sommeil, etc., et qu'au milieu de ça, tu continues à boire de l'alcool, ben en fait, tu sabotes le truc. Tu sabotes le truc.
D'ailleurs, je trouve qu'il y a une prise de conscience. J'ai trouvé, alors est-ce que c'est un sujet à la mode, j'en sais rien, mais dans les coachs et tout, qui ont avoué qu'ils arrêtaient l'alcool, qu'il y a le dry January, souvent c'est suivi, mais et
Oui.
sur l'ami Fred, j'ai vu mais des gens qui disaient, mais j'ai du mal et tout, c'est compliqué, je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin, enfin et tout. On a fait trois épisodes dans le podcast sur l'alcool, sur l'addiction à l'alcool, sur l'alcoolémie, sur les manières de boire et tout. Et le constat quand même, c'est vrai que on dit c'est très culturel, c'est très aussi, il y a des rites de passage, des rites initiatiques, enfin il y a tout un tas de choses autour de l'alcool.
Ouais.
Il n'est pas facile à éliminer pour
Non.
beaucoup de gens en fait.
Non,
Toi, tu vois vraiment, tu vois, chez les gens que tu accompagnes et tout, que ça change beaucoup de choses
ah,
sur
mais
leur
c'est
métabolisme et tout.
incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai une pratique qui fait aussi grincer des dents dans le secteur de la nutrition, puisque moi, je demande à mes clients de se peser tous les jours. Je leur explique que la pesée quotidienne, c'est pas pour valider que ce qu'ils font, c'est bien, mais c'est parce que ça te donne de gros enseignements sur les variations de ton corps, surtout quand tu es une femme, parce que les femmes, on est subies à tout un tas de flux hormonaux divers et variés, qui font qu'on a notre poids qui fluctue pendant le mois, et puis on a des aliments qui vont être plus ou moins inflammatoires, et l'inflammation, ça fait partie des choses aussi auxquelles il faut être super attentif. Et le fait de se peser tous les jours, ça permet de déceler des trucs. Moi, typiquement, je sais que j'ai certains composants qui sont présents dans les légumes feuilles, comme les blettes et les épinards, par exemple. Eh ben, quand j'en mange, j'ai la balance qui part à la hausse de 600-800 grammes en une nuit. Tu vois?
D'accord.
À apport calorique et à ratio protéines, lipides, glucides identiques. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'il y a certains nutriments, certains composants des aliments qui n'ont pas le même effet sur le métabolisme. Et donc, si tu veux, j'insiste beaucoup sur cette pesée quotidienne dans l'optique d'une connaissance de soi. Voilà. Apprends à te connaître, apprends à voir comment réagit ton métabolisme, apprends, essaye de comprendre. Qu'est-ce qui l'impacte? Et j'avais un client qui avait l'impact du sommeil. Il avait des rythmes de sommeil super réguliers et il adorait le foot. Les soirs de match, il se couchait plus tard. Le lendemain matin, il avait pris 1 kilo systématiquement. C'était impressionnant. Et l'alcool, c'est du même acabit. Je vois des gens qui ont une perte de poids régulière, etc. Et qui, parce qu'ils vont occasionnellement boire de l'alcool, vont prendre du poids et vont avoir beaucoup de mal à le reperdre ou à redéclencher la perte de poids. Je vois ce que j'appelle moi des effets rebonds de 4-5 jours après une soirée où la personne elle a bu 2 verres de vin. C'est pas non plus une cuite, quoi, tu vois. Donc oui, il y a un vrai impact de l'alcool sur la santé métabolique et les gens qui n'arrivent pas à arrêter l'alcool de manière régulière, clairement, ils ont beaucoup de mal à décoller en termes de perte de poids et surtout de relance du métabolisme.
Donc ça, c'était pour les grands vilains.
Le grand vilain.
Le grand vilain. Mais en plus, alors, tu vois, tout à l'heure, je me faisais la réflexion, tu parlais du blé, tu parlais du sucre et tout. Je lisais un article qui montre que y a des grands enjeux autour de ces produits. En France, les céréaliers qui faisaient beaucoup de blé sont en train de se remettre sur la betterave à sucre. Pour des raisons financières, donc ça veut dire qu'il y aura plein de sucre à écouler aussi dans le temps. On est sur des grands enjeux économiques aussi. Quand
Oui,
tu
oui.
vas dans un supermarché, que tu regardes le nombre de produits transformés, le nombre de produits à base de blé, le nombre de produits qui ont du sucre.
80% des rayons dans un marché européen, dans un supermarché européen, c'est des produits transformés essentiellement d'origine céréalière.
Et c'est eux qui
C'est un
font de la
truc de
pub,
dingue.
c'est eux
Oui. C'est le plus gros marché publicitaire, oui,
qui
tout à fait.
envahissent, qui. Comme on dit, hein, on pourrait dire une courgette, elle a pas le budget pour se mettre faire une pub, pour dire
Non.
mangez-moi.
Non, il n'y a pas de pub pour la courgette.
Sauf quand elle est moche, à la limite, on
Voilà.
voit Intermarché avait, enfin, oups, bah, c'est pas sponsorisé, mais tant pis, avait fait son truc et tout. Mais c'est vrai que quand même, on est dans un monde où culturellement. Socialement, publicitairement, il y a tout un tas de trucs où ces apports-là de grands vilains sont apportés, mais très, 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 très tôt. Je le disais il n'y a pas longtemps dans l'épisode où Kellogg's, le patron de Kellogg's, a dit, bah, les céréales, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter de la
Mangez-en
viande,
au dîner.
mangez-en au dîner.
Mangez-en au dîner.
Parce que lui, de toute façon, il doit écouler ses achats de blé, de transformation de maïs et de tous ces trucs-là et tout.
Tu sais pourquoi on a inventé les céréales Kellogg's?
Oui, bah il y avait du surplus à passer de toute façon.
Non! Tu connais pas l'histoire de Monsieur Kellogg's?
Bah vas-y, raconte-la alors.
Ah, tu vas voir, c'est passionnant. Monsieur Kellogg, quand il était jeune, il était membre d'une secte qui s'appelle les Adventistes du septième jour. Alors, je ne sais pas si c'est une secte ou si c'est un bras très très strict de la religion catholique, mais c'est considéré comme une secte en France. Et c'est une secte qui est basée sur le végétarisme et sur la pureté absolue. Et monsieur le jeune Kellogg, avant de devenir médecin, c'était le rapporteur de la gazette de la secte, en fait. Et c'est lui qui écrivait le journal et qui remettait dans ce petit journal de la secte les visions qu'avait la femme du fondateur, dans lesquelles Dieu lui avait parlé. Et Dieu avait dit qu'il fallait arrêter les produits d'origine animale parce que ça entretenait la luxure et ça incitait les petits garçons à se masturber. Et donc Kellogg, fort de ses convictions très religieuses, a cherché un moyen de remplacer le bacon et les œufs qui constituaient le petit déjeuner classique des enfants aux États-Unis à l'époque, par quelque chose qui éviterait que les petits garçons se masturbent. Et donc il a passé une grande partie de ses études et de sa jeune vie professionnelle à trouver et à inventer les céréales du petit déjeuner. Et les céréales du petit déjeuner étaient donc commercialisées à l'époque avec l'idée forte d'être une bonne mère Donnez des céréales à vos enfants au petit déjeuner, soyez une bonne mère, sous-entendu, pour éviter que vos petits garçons deviennent des pervers qui se masturbent.
Bref. D'ailleurs, l'église adventiste, tu sais que c'est une zone bleue? Non, mais. Et, je parlais de Netflix. Je sais pas si ça va avoir un truc, mais. Dans le documentaire sur les zones bleues, qui est super intéressante, il montre que Loma Linda, là où il y a l'église adventiste à des écoles, à tout un tas de trucs, fait partie où il y a une très grande longévité. Et notamment parce que bah, ils mangent pas de viande, etc. Toi, il montre ses règles strictes. Et ce qui montre d'ailleurs que c'est très compliqué quand on regarde tous les reportages, toutes les informations sur la nutrition, sur la santé, sur l'espérance de vie, etc. On voit qu'il y a énormément d'informations qui viennent se catapulter, tu vois, les unes aux autres. Comment toi tu, parce que tu disais, tu as lu beaucoup de livres, etc. Comment finalement, outre ton expérience personnelle et ce que tu as appris et tout, comment tu te forges, toi, alors pas ta religion, mais
Mon intime conviction.
ton intime conviction?
Moi j'ai lu beaucoup de bouquins. Alors oui, on va me dire c'est des bouquins de gens qui sont pro-réduction des glucides. Ok. Ok. Mais j'ai lu un petit bouquin que je recommande à tout le monde et qu'il est très difficile de trouver. C'est Le grand mythe du cholestérol. C'est un bouquin qui est pas tout jeune. Qui a été écrit par deux scientifiques et qui est écrit à la façon d'une saga où ils expliquent comment, depuis la fraude d'Ansel Key qui a diabolisé la viande à tort et les graisses animales à tort, jusque au marketing moderne, on en est arrivé à financer et à faire dire aux études que le gras était pas bon alors que c'est pas le gras le coupable, et comment on a camouflé en fait la transformation, l'abus de sucre, les farines raffinées qui sont les vrais coupables en fait des maladies d'aujourd'hui. Et en fait, ce livre, c'est vraiment pour moi. Il est pas très gros, hein, il fait 200 pages et il est vraiment écrit comme une saga, mais il est hyper complet en termes d'études, il ramène toutes les études, etc. Et il explique que bah, au début du 19e, on disait que les gens obèses devaient arrêter la farine et le sucre, mais que ça a été totalement occulté par tout un tas d'autres préoccupations qui étaient bien plus politiques que scientifiques, et que ça a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui de débauche de produits sucrés et transformés absolument partout. Donc quand tu commences à lire ça et que tu comprends la petite histoire qui fait la grande. Et quand tu lis des gens qui t'expliquent, tu prends Jason Fung, tu prends Gary Taubes, tu prends Evelyne Bourdua-Roy, qui sont vraiment les trois experts que moi je lis beaucoup et qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. Pourquoi on grossit de Gary Taubes est hyper éclairant sur le fonctionnement du métabolisme. Jason Fung avec le code de l'obésité, il explique vraiment le fonctionnement de la prise de poids, en fait. Et quand tu comprends que l'incitation au stockage, elle passe par la résistance à l'insuline, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand les cellules sont débordées d'insuline qu'elles se mettent à stocker l'énergie qui arrive en surplus, de la simple compréhension de la mécanique de la prise de gras, en fait. Quand tu comprends comment le gras est transformé, comment le sucre qui circule dans ton sang, l'énergie qui circule dans ton sang, est transformée en gras quand ton corps ne peut plus l'absorber, bah, tu as compris que bah, si tu veux réduire ton stockage, il faut que tu arrêtes d'apporter du sucre, quoi. Tu vois, c'est bête, c'est simple, c'est basique, comme dirait quelqu'un.
Ouais, mais tu vois, moi, après, je vais avoir des gens qui vont dire oui, mais t'as qu'à faire plus de sport, t'as qu'à bouger plus, etc. Et comme réponse, tu vois, dire bah l'énergie que t'ingurgites, t'as
Mais
qu'à la
je suis
consommer.
d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord parce que avoir une activité physique, c'est un bon moyen de réduire la résistance à l'insuline. Parce que quand tu augmentes ton volume de muscle, eh ben, tu augmentes ta capacité de stockage de glycogène. Donc il y a moins de glucose qui se balade dans ton sang, donc tu vas stocker moins d'énergie, etc. Sur le papier, c'est génial. Sauf que les gens qui sont obèses, qui sont en vrai surpoids, pas les gens qui ont un mode de vie de merde et qui est totalement explicable, leur surpoids est totalement explicable par leur mode de vie. Je parle de gens comme moi, j'ai des femmes de 50, 60 ans qui ont pesé plus de 100 kilos toute leur vie en étant à 800 calories, en s'épuisant sur des tapis de marche, etc. Leur corps n'a pas la capacité à utiliser l'énergie, enfin le glucose, comme source d'énergie. Il y a une telle résistance à l'insuline installée dans leur corps que dès qu'il y a une absorption d'énergie, il est transformé en gras au lieu d'être transformé en énergie. Et ça, c'est génétique, c'est physiologique, c'est psychologique, c'est lié au mode de vie, c'est lié à des centaines de facteurs, mais on ne peut pas juste dire à quelqu'un qui est en gros surpoids, hey, bouge ton cul, tu vas voir, ça va passer quoi. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des problématiques de résistance à la leptine, il y a des problématiques de résistance à l'insuline, il y a des problématiques d'inflammation, il y a des problématiques de cortisol. Enfin, c'est un maelstrom hormonal qui fait que ton corps, à un moment donné, au lieu d'être capable de prendre l'énergie qui rentre pour la transformer en énergie mouvement, va la transformer en énergie stockée, en gras. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que de dire à quelqu'un de bouger. Après, mais oui, mais bouge. Le mouvement, c'est idéal. Moi, je dis toujours à mes clients, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, mais bougez. Parce que oui, c'est important d'entretenir sa forme physique, d'avoir une capacité musculaire, d'entretenir sa souplesse, d'entretenir son souffle, bien sûr. Mais tu ne peux pas juste dire à un gros, vas-y, bouge, mon gars, tu vas perdre du poids.
Et d'ailleurs, dans les éléments que tu dis, et on en revient à cette histoire que l'importance de la viande, des protéines, c'est à un moment donné, je pense que les gens ne perçoivent pas l'importance du muscle dans le métabolisme, dans
Le muscle, c'est
l'équilibre.
un organe, c'est l'organe de la longévité. Le muscle, c'est l'organe de la longévité. Et je vais être très franche, hein, moi, je déteste le sport. Mais alors, j'ai une aversion pour le sport, mais un truc incroyable, aussi bien dans la tête que dans mon corps, j'aime pas ça. Mais je sais profondément au fond de moi qu'il faut absolument que, à l'approche de la cinquantaine, et ça y est, j'y suis, je me décide enfin à travailler ma masse musculaire parce que, à l'approche de la cinquantaine, femmes et hommes confondus, se produit la sarcopénie, la fonte de la masse musculaire. Et moi, j'ai beau être très carnée et manger beaucoup de viande pour entretenir ma masse musculaire, ce qui m'a permis de perdre du poids sans perdre de masse musculaire. J'ai quand même besoin de la travailler et je sais, ça fait partie de mes plans à court terme, de commencer des plans d'entraînement pour travailler mes muscles, parce que les muscles, c'est l'organe de la longévité, c'est clair.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important aussi de retenir que le muscle il se développe et que. Parce qu'à l'époque, on recommandait beaucoup de cardio. Et je pense que dans les personnes que tu as, dans tes clientes, tu disais, elles mangeaient 800 calories, elles s'épuisaient en cardio.
Ouais.
Elles ne devaient même pas perdre de poids, elles devaient même perdre du muscle.
Elles en prenaient parce que le cardio, c'est hyper stressant. Et à partir du moment où tu stresses ton métabolisme, tu dérègles tes taux de cortisol et de leptine, tu te retrouves avec des processus physiologiques qui sont mais éclatés au sol. Hein, et tu prends du poids, tu stockes tout ce que tu peux dès que tu peux parce que ton métabolisme, il est en panique. Donc non, le cardio, clairement, c'est pas recommandé à forte intensité, surtout quand on pèse très lourd, en fait. C'est un trop gros stress pour le métabolisme. Moi, je dis toujours à mes clientes qui veulent se mettre au sport alors qu'elles pèsent encore très très lourd, commencez par du mouvement doux, de la marche, après faites un peu de renforcement musculaire, et quand vous aurez perdu du poids, vous serez en mesure aussi d'utiliser l'énergie que vous absorbez pour faire du sport derrière. Mais ne partez pas tout de suite sur des tapis de course en pesant 100, 120 kilos. Enfin, les articulations, tout en prend un coup, quoi. C'est pas possible.
Mais c'est vrai hein, que cette histoire de conseils qu'on a eu, parce que moi j'ai eu quelqu'un, tu vois, en accompagnement qui, même en faisant du cardio, même en faisant du sport et tout, avait, tu vois, cette résistance et qui a été diagnostiquée, tu vois, au début de foie gras, résistance à l'insuline, qui disait, j'ai beau faire des efforts, ça bouge pas.
Bah
C'est
non. Ouais.
totalement déstabilisant. Et qui venait de sa culture, qui très jeune a eu des trucs de messages du type ses grands-parents ou je sais pas quoi, de dire tu vas être trop grosse, attention si tu manges ça, faut, toi, des régimes imposés à la puberté, tu vois, des choses comme ça, ou
Ouais.
le culte du corps, enfin, vraiment ce truc-là, quoi. Et on se rend compte des dégâts, mais 20 ans, 30 ans plus tard, ou enfin, même plus que
Ouais.
ça, tu vois, sur certaines personnes,
Ouais.
qui finalement, comme tu dis un peu, elles savent plus vraiment même comment ça fonctionne, j'ai l'impression, parce que tous les
Non.
conseils que tu peux voir, ben, ça marche pas pour elles.
Ouais, bah en fait, le truc, c'est que et malheureusement, c'est encore le cas à des niveaux médicaux. C'est-à-dire que la science a beau expliquer que les calories in, calories out, donc le principe de dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme, est totalement foireux parce qu'on n'est pas des aspirateurs qui aspirons de l'air d'un côté pour le faire sortir de l'autre, mais qu'on est des machines hyper complexes avec tout un tas de processus physiologiques, hormonaux, métaboliques, qui vont entraîner le stockage ou pas de certains nutriments, etc. La science a beau l'expliquer, ça reste quand même très très prégnant. Tu prends la moindre diététicienne, elle te fait un plan avec des calories, sans comprendre la différence entre les calories qui incitent au stockage et les calories qui incitent à la relance métabolique. Tu prends les nutritionnistes. Bah, mon nutritionniste, alors c'était il y a 16 ans, mais il y en a encore. Je vois encore des clientes qui sortent de chez le nutritionniste avec des petites feuilles où on leur dit de réduire la viande, de manger 4 cuillères de féculents et 4 cuillères de légumes le soir, d'être à 600 calories. Et non, ça ne marche pas. Il y a même des gens qui prennent du poids comme ça et les nutritionnistes leur disent non, mais il faut persévérer.
Ouais.
Mais à quel moment tu dis à quelqu'un qu'il faut qu'il persévère alors que ce que tu lui as prescrit, ça fonctionne pas depuis des mois, tu vois? Et il y a une vraie méconnaissance de ça. Et c'est, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode, parce que moi aussi j'ai un podcast qui s'appelle Parcours de santé où je fais intervenir justement des experts. Et j'ai interviewé Evelyne Bourduarois, qui est un médecin de famille, on appelle ça comme ça au Canada, donc médecin généraliste, qui s'est intéressé justement à ces problématiques-là et qui a monté la clinique Reversa au Canada, où elle a accompagné des diabétiques dans l'inversement de leur diabète grâce à l'alimentation. Et elle me disait que quand elle a découvert en fait les fondamentaux de ces raisons de la prise de poids, cette mécanique que je t'expliquais de la résistance à l'insuline, etc., elle a été choquée de ne l'avoir jamais étudié pendant ces 9 années de médecine. Et quand tu comprends qu'on en est là au niveau médical, tu imagines bien que bah, ça peut pas redescendre dans la population, ça peut pas redescendre chez la diététicienne du magasin de compléments alimentaires bidule qui va te vendre un plan alimentaire à 1200 calories et des gélules. Ça peut pas redescendre chez le moindre coach sportif qui n'a étudié la nutrition que 4 heures. Ça ne ruisselle pas en fait. Et du coup, on reste dans l'imaginaire sur les gros sont gros parce qu'ils bougent pas assez et qu'ils mangent trop, quoi.
Mais et qui se perpétue, parce que j'ai vu l'autre jour un réel sur, a priori, alors Jean-Michel Cohen aurait sorti une nouvelle méthode, un nouveau livre, je sais pas, dans lequel il n'y a rien à manger, a priori. Si tu suis son truc, t'as moins de 1000 calories, je crois. Alors moi, je l'ai pas vu, donc je sais pas, mais en tout cas, il y avait un réel qui le disait, enfin, je retrouve le truc. Et quand il listait ce qu'il mangeait, et je me suis dit, mais non seulement peut-être tu perds du poids, j'en sais rien, mais c'est intenable sur le long terme. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, je suis même pas sûr que tu sois capable d'émerger de la journée, d'être en forme pour travailler. Et j'en reviens à au titre de ton livre sur cette notion d'être efficace, et avoir de la réussite, avoir un cerveau qui fonctionne bien,
Performant,
etc.
de la
Performant, voilà, la
performance.
performance. Et on en reparlera après. Donc je me disais, avec aussi peu d'énergie qui rentre, non, déjà, c'est dur à tenir, tu dois être quand même dans le coltard une bonne partie. Bouger, faire du sport doit être pas très facile, etc. et tout. Et je suis même pas sûr que tu dormes bien, parce que tu n'as même pas des apports sur certains moments de la journée qui te permettent de lutter contre des fringales, contre la faim, de favoriser les hormones autour du sommeil, etc. Donc ça perdure ces histoires-là, parce que marketingement parlant, ça doit être facile à vendre.
Bien, oui, mais de la simplification. J'avais lu un livre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui parlait du réductionnisme en nutrition. Les déviances, non pas les déviances de la nutrition, les dérives de la nutrition. Les dérives de la nutrition. Et en fait, ce livre, alors, il est un peu touffu. Il a été écrit par un scientifique et du coup, il a parlé, enfin, il s'exprime de manière très touffue. Mais globalement, il exprime à quel point, en voulant simplifier la nutrition pour la rendre abordable, parce que le cerveau humain déteste les trucs complexes, on a totalement anéanti la compréhension du fonctionnement du corps. Tu vois, quand je vois des fois, je vois alors je suis sur Instagram pas mal et je vois des diététiciennes qui proposent des assiettes. Ah, votre assiette du jour, tu vois. Je regarde. Alors, elles sont belles, les assiettes, elles sont super colorées. C'est génial. Les assiettes arc-en-ciel, tu sais, waouh, c'est beau. Hein. Sauf que je ne vois pas les acides aminés ni les acides gras essentiels. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de manger ou de ne pas avoir faim, hein, parce que ça, c'est encore autre chose. On parle juste déjà d'avoir les apports nutritionnels indispensables à la survie de ton corps. Enfin, c'est aberrant. Quand j'explique aux gens que le minimum vital pour une femme de corpulence moyenne et d'âge moyen, c'est 70 grammes de protéines par jour, 70 grammes d'acides aminés par jour, sachant que dans ces 70 grammes, il faut qu'il y ait la plus grande variété possible sur les 22 acides aminés qui existent, et que 70 grammes d'acides aminés, c'est pas un demi-steak, mais c'est 280 grammes de viande, les gens tombent de l'arbre en fait. Comment ça? Et ouais, 70 grammes d'acides aminés, c'est le minimum vital pour une femme d'âge moyen et de corpulence moyenne. Plus tu vieillis et plus t'es gros, plus t'as besoin d'acides aminés. 280 grammes de viande par jour pour assurer le maintien de tes fonctions cellulaires, quoi, de toutes tes fonctions cellulaires. Voilà, le renouvellement, l'entretien, la réparation, la création de nouvelles cellules, que ce soit du muscle, des organes, du cerveau, passe par un apport minimal de 70 grammes d'acides aminés par personne et par jour. Et les gens ne savent pas, en fait, ils ne comprennent pas ça. Et le problème, c'est que même le médecin, il ne le sait pas, parce que quand il dit aux gens, oh, il faut manger assez de viande, hein, manger bien 70 grammes de protéines, bah, les gens entendent 70 grammes de protéines, oh, bah, 2 œufs, ça fait 100 grammes, c'est bon, je suis dedans. Tu vois? Donc, il y a cette méconnaissance-là où on ne comprend plus en fait ce que c'est. On a voulu exprimer que la viande, c'était une source de protéines, mais la viande, ce n'est pas que des protéines, c'est des protéines et des lipides. Moi, ça me fait toujours halluciner quand je vois sur les pots de beurre de cacahuète, source de protéines.
Attention, t'as pas le droit de critiquer trop le beurre cacahuète. Alors vas-y.
Le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est hyper inflammatoire, déjà, à la base.
Je sais.
Mais au-delà de ça. Non, mais au-delà de ça, ce qui me sidère, c'est de voir des gens se diriger vers une alimentation plus végétale et penser qu'il suffit de mettre 2 cubes de tofu à l'ail des ours et un peu de beurre de cacahuète dans leur vinaigrette pour avoir des protéines. Tu vois, il y a vraiment cette problématique-là qui est monumentale en fait derrière où on ne sait plus, on ne sait pas, on n'a jamais su en fait les besoins vraiment vitaux du corps et à quoi ça correspond en termes d'aliments.
Mais c'est vrai, par contre, c'est, je pense que. Et puis alors là, on est dans le. Tu vois, j'ai des sportifs, on parle principalement d'alimentation sportive. Tu as en plus des besoins complémentaires avec la dépense sportive et tout, donc ça,
Ouais, tout à
encore,
fait.
ça augmente les doses. Et moi, je sais que le premier, et on m'a souvent posé la question, je dis, je ne mange pas assez de protéines dans mon alimentation classique. Parce que pour monter. Alors moi, tu vois, je dois monter plus avec mon poids. Et ce que je fais comme activité, c'est pas 70 grammes, c'est plus que ça encore. Et tu vois, un jour, j'ai fait le calcul et je dis, mais j'en suis tellement loin sur certains moments, sur certains jours et tout, tu vois, je dois me forcer à trouver, en fait, à pallier ce truc-là. Alors, c'est là où après, je rigole, j'ai dit, beurre cacahuète, attention, on critique pas trop, parce que oui, c'est quand même une source. Alors, même si elle est inflammatoire, ça va, tu vois, après on pourrait parler des
Ouais, enfin,
oléagineux, on pourrait parler d'autres choses, etc.
c'est pas les protéines les plus absorbables et les plus bienfaitrices pour ton corps, hein?
Je vais dire
Voilà.
qu'il ne faut pas compter que là-dessus. Et c'est-à-dire que je
Voilà.
vais pas en faire un dire que c'est l'aliment santé.
C'est un complément,
Voilà.
c'est un complément. Mais si t'as pas fait tes devoirs, moi je dis toujours à mes clientes, si vous faites pas vos devoirs sur la viande, vous pouvez prendre tous les compléments que vous voulez, ça suffira pas, quoi. Il faut quand même avoir cette base. Et tu vois, toi, tu disais, je suis bien au-delà, mais moi, à presque 50 ans, en pesant aujourd'hui 70 kilos, je consomme entre 110 et 120 grammes de protéines par jour. Ça fait plus de 400 grammes de viande. Parce que c'est ce dont j'ai besoin pour me maintenir. Et quand je suis en dessous, je reprends du poids. C'est radical. Et oui, c'est un exercice parce que oui, il faut avoir envie de manger de la viande tout le temps, du poisson, des œufs, du poulet. Voilà, c'est un exercice, c'est une discipline. Mais j'ai une très forte conscience que personnellement, moi, j'ai besoin de cette quantité-là pour être en bonne santé. Et beaucoup de mes clientes découvrent, ça c'est assez frappant, j'ai beaucoup de mes clientes qui arrivent en étant plus ou moins végétalisées, on va dire. C'est-à-dire que pas une aversion pour la viande, mais pas un goût démesuré non plus. Voire certaines même un dégoût de la viande avec des choix de viande plutôt blanche quand elles en mangent parce qu'elles n'aiment pas la viande rouge, etc. Qui, en réduisant le sucre et les glucides de manière drastique, au bout de quelques mois, reviennent vers moi en me disant, oh, Sophie, mais tu vas pas me croire. Je bave à l'idée de manger une entrecôte, quoi. J'aurais jamais cru que c'était possible. Et en fait, j'ai même l'impression parfois que le corps, il t'envoie les signaux de ceux dont tu as vraiment besoin et que ces signaux-là, ils sont brouillés quand il y a l'influence du sucre et des glucides qui vient se mettre au milieu parce qu'on sait que ces calories glucidiques, elles entraînent une addiction, elles entraînent un manque de satiété qui va en redemander plus, etc., qui est totalement lié au grand 8 énergétique. Hein. Quand tu manges trop de sucre, t'as ta glycémie qui s'élève et qui s'abaisse brutalement, et donc du coup, ça te redemande du sucre, etc. Et je suis à peu près persuadée que quand tu arrives à écarter ces nuisibles, ces vilains, ton corps, il sait t'envoyer les signaux et tu retrouves un appétit et un goût pour des choses qui t'attirait pas plus que ça, en fait.
Oui, de toute façon, après, dans le besoin d'énergie, on va dire grosso modo, le corps, lui, il a besoin d'énergie. Alors, c'est là où. Parce qu'il y a des fois des discours de gens qui disent, ouais, mais une calorie, c'est une calorie. Alors,
Non. Non.
non.
Ben non. Une calorie de courgette, c'est pas une calorie de bonbon Haribo. Tu peux le mettre dans tous les sens que tu veux, mais c'est pas la même. Elle n'envoie pas les mêmes signaux.
Ouais, et on en revient, tu sais, parce qu'on a fait des épisodes sur l'ultra-transformation, qui était l'un des épisodes, je dois le dire, dans le top 5 des épisodes les
D'accord.
plus écoutés de ce podcast, sur la BD, tu sais, c'est la malédiction du cordon bleu. Je sais pas si tu as lu cette BD,
Oui,
mais sur
tout à fait.
l'ultra-transformation. Et j'ai reçu aussi Anthony Fardet, qui est sur lequel finalement les travaux se basent un petit peu aussi et tout
Oui, tout à
là-dessus.
fait. J'utilise beaucoup son effet matrice
Voilà.
avec mes clients,
La
justement.
matrice avec les 3V, où lui, il est sur une végétalisation quand même, mais sur lequel il n'enlève pas pour autant les autres aliments, hein, mais où
Mais
il dit que le végétal est important et puis il faut aussi en faire une source importante. Donc, cette histoire de transformation, de calories, de raisonner qu'en calories, on voit bien que de toute façon, ça ne fonctionne pas pour
non.
plein de trucs, parce que sinon, on pourrait dire, bah, ma calorie de tuiser les bonbons, mais y a plein de trucs comme ça quand on commence à faire des calculs, etc., où on se rend compte que ça marche pas. Enfin, ça marche pas,
Ça peut pas marcher, ça
parce
marche
que
pas.
y a des choses qui jouent. Moi, je le vois aussi sur comment s'appelle, sur tu sais, les fringales que je peux avoir. Souvent, on m'a questionné sur le jeûne. Alors, je sais pas si tu parles du jeûne. T'as testé,
Oui,
toi,
alors
tous les trucs de jeûne?
j'en parle pas forcément. Bah là, je jeûne aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Je suis sur un jeûne de 36 heures. J'ai arrêté de manger hier soir et je remangerai demain matin. C'est quelque chose que j'ai intégré à mon hygiène de vie très régulièrement. J'essaye de jeûner au moins 24 heures une fois par semaine.
D'accord.
Le jeûne, c'est aussi quelque chose que tu comprends quand tu comprends le fonctionnement du métabolisme, justement, et que tu arrives à intégrer parce que quand tu es débarrassé des fringales liées aux aliments glucidiques et quand tu nourris suffisamment bien ton corps, que tu lui apportes les acides gras et les acides aminés essentiels, il est capable de ne pas manger pendant 10, 12, 15, 20 heures. C'est incroyable. Moi, comme je dis toujours, à l'ère de l'homme préhistorique, il mangeait pas toutes les 6 heures ou toutes les 8 heures. Hein. Des fois, il passait plusieurs jours sans manger. Et le jeûne, c'est quelque chose qui est totalement intégré dans nos gènes. C'est quelque chose qui est intégré dans la plupart des religions. Toutes les religions ont plus ou moins des notions de jeûne à certaines périodes. Et clairement, ça fait partie d'une hygiène de vie. Et être capable, enfin, quand tu es capable de jeûner, tu te rends compte à quel point il faut apprendre à te nourrir, en fait. Moi, mes clientes qui se lancent dans le jeûne, avant qu'elles se lancent dans le jeûne, je leur dis toujours, avant d'apprendre à jeûner, apprenez à manger. Déjà, à la base, le premier truc. Parce que si tu ne sais pas te nourrir correctement, le jeûne va être contre-productif. Et oui, quand tu te nourris correctement, les fringales, typiquement, elles disparaissent. Parce que si tu apportes à ton corps les nutriments essentiels dont il a besoin, il n'a aucune raison de te demander plus de nourriture.
Dans ton livre, je reviens à ton livre parce que je le dis, en plus il est sympa et la mise en page est super sympa, je trouve. Elle change un
Il est
peu.
mignon.
Ouais, il est mignon.
Ouais, il est mignon.
Même la mise en page des textes et tout, enfin
Ouais.
même la version numérique, des fois elles sont un peu tristes, les versions numériques. Ce qui n'est pas du tout le cas du tien, donc ce qu'il lit très très bien. Il y a des trucs que tu épingles. Alors, même parce que tu parles des agents doubles, donc tu ne les as pas mis dans les vilains, mais il y a un truc que tu as mis dans les agents doubles, c'est les substituts de repas
Ouais.
et les shakers. Alors, qui sont plus pour moi, la plupart des trucs, je les aurais mis dans, par rapport à ta classification de départ sur les ultra-transformations. Je les mets pas double, je les mets presque grand vilain quand même, ces trucs-là.
Ouais, alors en fait, moi j'appelle ça les agents doubles parce que c'est souvent des aliments qui sont vendus par le marketing comme étant des alternatives saines, des trucs qui sont utiles, tu vois. Et oui, clairement, les substituts de repas. Alors, je parle pas de la whey pure que tu peux trouver qui est utilisée par les sportifs, même si, à mon sens, je préfère quelqu'un qui mange un steak à quelqu'un qui me prend de la whey. Mais je peux comprendre que tu n'arrives pas à t'avaler 600 ou 800 grammes de viande par jour quand tu as besoin de ces apports-là. Je peux l'entendre. Ou moi, j'ai des clientes qui ont été opérées, qui ont des bypass ou des choses comme ça, qui n'arrivent pas à
Ouais,
manger des
ils
grosses
peuvent pas le
quantités de
faire, ouais.
viande. Et du coup, la whey, c'est une bonne alternative pour leur apporter ces acides aminés dont elles ont besoin. Mais clairement, quand je vois des marques proposer des sachets avec des shakers où globalement c'est de la poudre à base de légumineuses qu'on vend comme un repas complet, ça me fait dresser le poil. C'est une aberration pour moi parce que non, c'est pas un repas complet, c'est de la bouillie très glucidique dans laquelle on a injecté un petit peu de protéines végétales, des vitamines de synthèse, et on prétend que c'est l'équivalent d'un repas. Et non, ça n'est pas l'équivalent d'un repas. Il vaut mieux manger 2 œufs durs qu'on aura pris le temps de faire cuire en début de semaine pour les trimballer dans son sac toute la semaine, parce que ça se garde très bien, les œufs durs. Il vaut mieux descendre à la supérette du coin, acheter des tranches de fromage, des tomates cerises, un morceau de jambon, un avocat, que de manger un shaker, quoi. C'est pas un aliment santé.
Ouais. C'est vrai que tu mettais dans les agents doubles. Et moi, tu vois, à un moment, je peux le dire, tu vois, parce que j'ai consommé, tu vois, des trucs genre Phi, des compagnies, là. Je suis en train de chercher la composition de ces trucs. Qui est
C'est
finalement.
souvent de la poudre de pois, en
Ouais, là,
fait.
c'était, je crois que c'est de l'avoine, en fait, tu vois, un truc dans le
Oui, bon,
genre là.
c'est une céréale, quoi,
Ouais.
transformée, donc. Oh!
Mais c'est vrai que on dit c'est un repas complet, alors qu'il y avait quand même la caractéristique de me, je trouvais de, ouais, je dis pas que ça tient au ventre, enfin ça remplit parce que le curseur de satiété peut-être parce qu'il y a du remplissage, mais sur l'instant, sur les apports, quand on regarde effectivement le contenu, on peut pas dire, tu vois, le 100% équilibré, il est quand même souvent gonflé, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus que quand on regarde le truc, on dit
Il y
là,
a
il y a,
beaucoup
y a...
de glucides, il n'y a pas beaucoup de protéines, il n'y a pas assez
Ouais,
de lipides,
c'est un peu la méfiance. Mais tu
ok.
vois,
Ouais.
par contre, j'en avais fait moi une alternative à des trucs du style, quand j'allais faire mes cours, tu vois, à l'époque, je faisais beaucoup de cours à droite à gauche, et c'était ça, entre ça et tu vois, le sandwich,
C'est
ou
pour
genre
ça que je parle d'agent
panini.
double.
Ouais.
C'est pour ça que je parle d'agent double, parce que ça reste une alternative moins pire au sandwich Panini ou au McDo. Mais ça n'est pas pour autant que ça doit s'inscrire dans une alimentation régulière, en fait. Ça doit être exceptionnel parce que c'est pas une alimentation saine. On peut pas. Le livre que j'ai écrit, donc Bien manger pour réussir, c'est vraiment à destination des gens qui travaillent, qui portent des projets, qui entreprennent, qui dirigent des entreprises. Et qui se rendent bien compte qu'ils pourraient être performants au boulot, parce qu'on parle de la performance sportive, mais on parle très peu de la performance intellectuelle, du créateur d'entreprise, du porteur de projet. Pour que leur cerveau et leur corps fonctionnent bien, il faut leur apporter les bons nutriments. Et oui, ça sera toujours moins pire que descendre au McDo en bas et s'acheter son gros burger avec ses frites et son coca. Mais tu ne peux pas construire une santé cognitive et une santé métabolique sur la base de ces trucs-là, ça n'est pas possible.
Je suis assez d'accord. mais si vous regardez la composition, c'est vrai qu'il y a enfin, il y a un nombre de trucs en plus. Avoine. Non, non, mais c'est vrai. Alors, protéines de pois, farine de riz, lin. Bon, voilà. Bref.
Des céréales transformées, donc.
Des
Oh,
céréales transformées.
incroyable.
Et on revient sur cette notion de transformation. Mais même,
Ouais.
d'ailleurs, et c'est un peu tout le, un peu l'esprit des fois, tu sais, un peu l'esprit contradictoire. Et toi, je sais que. Ça fait partie un peu des marches de réflexion qu'on peut aller là-dedans. C'est, moi, j'ai des gens qui disent, oui, je prends des produits véganes, tu sais, et qui font du faux steak, des choses comme ça. Alors,
Ouais.
tu l'as pas mis dans tes catégories et tout, mais des fois, je regarde la composition de certains des produits et je me
30,
dis,
40 ingrédients, dont certains tu ne reconnais absolument pas
bah, c'est-à-dire que
le
Ça ressemble. Je suis pas contre l'idée de faire des faux steaks, etc., pour dire aux gens passer végétal, etc. Mais par contre, on est encore dans un truc très transformé, quand même. Et je me demande, en fait, tu vois, si toi, tu vois, quand tu as vu, tu vois, avec les gens qui t'échangent, etc., si tu as des gens, tu sais, qui ont ces alternatives-là, qui se sont dit, ça a l'air d'être présenté comme étant bon pour la santé, bon pour la planète, bon pour tout, tu vois, et qui, au final,
Ah, j'en ai plein,
que se rendent
j'en ai
compte
plein.
que...
Et ça les rend malades. Moi, j'ai des clientes qui se sont rendues malades parce que, typiquement, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les céréales, il y a ce qu'on appelle des lectines. La plus connue des lectines, c'est le gluten. Ces lectines, ce sont des protéines de défense des plantes qui posent des problèmes parce qu'elles viennent se coller. Aux parois intestinales, parce qu'elles passent la barrière intestinale, elles deviennent inflammatoires, etc. On sait que c'est le gluten qui est en grande partie responsable des maladies cœliaques, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le gluten, il y a toutes les autres lectines qui sont dans toutes les céréales, dans toutes les graines. Et quand on broie ces graines, ben on les débarrasse des fibres, parce qu'elles sont broyées, mais on ne les débarrasse pas de ces lectines. Et en fait, tu te rends compte. Qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problématiques d'inflammation, qui ont des problématiques de psoriasis, qui ont des problématiques de rectocolite hémorragique, qui ont des problématiques de syndrome des intestins irritables, moi j'ai de la fibromyalgie, j'ai des gens qui ont de l'arthrose, etc., qui sont hyper exacerbés par ces aliments-là, en fait. Et la problématique, c'est qu'on ne le dit pas parce que les végétaux, c'est réputé être bon pour la santé, parce que bah, Anthony Fardet, il parle beaucoup de végétal. Et il a raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec Anthony sur la partie, il faut manger des fruits et des légumes. Bon, les fruits, ça se discute parce que les fruits d'aujourd'hui, ce n'est pas les fruits d'hier. Mais je suis d'accord avec lui. La problématique, c'est que lui, il sait que quand tu manges des produits d'origine végétale transformée, c'est pas bon pour la santé. Sauf que les gens, ils s'arrêtent à il faut manger végétal, donc un steak hyper transformé avec des poudres hyper inflammatoires qui ne m'apportent pas la même quantité de protéines. Pour eux, c'est la même chose qu'un steak et il est là le problème en fait. Les gens ne comprennent pas la différence. C'est pas un steak, c'est pas parce que ça a la forme d'un steak et que c'est présenté dans une assiette avec des légumes à côté que ça a les mêmes apports en nutriments qu'un steak et que ça a le même impact sur le métabolisme qu'un steak.
Ouais. D'où l'importance de revenir quand même aux notions de 3V quand on parle d'Anthony Fardet. Il y a quand
Le
même un truc qui
vrai.
s'appelle le vrai.
Ouais,
Parce que...
exactement, le vrai. Le végétal, mais le vrai, celui que tu vas acheter au marché, pas celui qui a un emballage plastique et des étiquettes, en fait.
Mais c'est vrai que c'est une notion qui est importante et on ne se rend pas compte en fait des impacts. Et je reviens... Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, allez écouter l'épisode avec Vrob sur la malédiction du cordon bleu parce que, et allez acheter le bouquin parce que vraiment, moi, la BD, elle se dévore, hein, c'est le cas de le dire, mais elle est vraiment très intéressante et
Le
elle
papier,
montre.
c'est pas terrible pour les intestins,
Ouais, puis
Bertrand.
moi, tu sais, je le dis sur tablette, alors c'est encore pire.
Oh,
Bref, ça sert à rien, tous ces trucs-là. Ça se mange
punaise.
même pas. Enfin, on peut
Non.
même pas le manger. Où on revient quand même à cette logique-là de dire que on se rend compte que l'industrialisation de l'alimentation, quand même, elle a eu des impacts. Alors, elle a eu des bénéfices à une époque, probablement pour nourrir tout le monde, pour arriver à nourrir tout le monde. Et on sait que économiquement, il y avait des raisons de. Et tu vois, les documentaires dont je parlais tout à l'heure disaient oui, il faut que les gens mangent, qu'ils aient de la force de travail, qu'on développe, on
Oui, bien
reconstruise les
sûr.
pays et tout, ça a une logique. Mais que sur le maintenant, sur les conséquences, quand on étudie tout ce qui se passe avec l'ultra-transformation et le
La
rythme
culture
infernal
intensive, la
ouais, de
culture
l'intensif
intensive.
et de l'ultra-transformation et de tout ce qu'il y a, le marketing, toute une économie à faire vivre. Les conséquences sur l'alimentation des gens et elles sont graves quand même parce que on parle
Ah, c'est
d'une
désastreux. C'est
aux
désastreux.
États-Unis l'espérance de vie en bonne santé et même l'espérance de vie tout court recule.
Ouais.
En France ça progresse, je sais pas si ça
En France,
progresse
je
tant que
crois
ça.
qu'on a 20% des Français qui sont atteints de la maladie du foie gras sans le savoir. Hein. On en est à ce niveau-là. Hein.
Et
Donc, c'est pas rien,
c'est
quoi.
pas rien. Et quand on regarde aussi, j'ai regardé une étude, je sais plus la courbe, j'ai vu ça sur quand on parle des régimes des retraites. Et qu'on se rend compte que les moins riches du pays vont mourir probablement vers l'âge de la retraite et qu'il y a des liens
Ouais.
sur y a plein de liens qui viennent aussi sur l'alimentation, sur le mode de vie, sur le stress, parce que finalement, tu en as parlé un petit peu du stress, mais on n'a pas trop dit, mais l'impact du stress sur le fonctionnement du métabolisme, sur le fonctionnement de la prise de gras et compagnie, c'est hallucinant. Et
Et
on est tous
le stress, c'est pas juste parce que des fois, je parle avec mes clients du stress et elles te disent, oui, mais moi, mon boulot, ça va, je suis pas stressée. Sauf que le stress, c'est pas que ça. Le stress, c'est vivre en ville et subir le bruit de la rue. C'est prendre les transports bondés. C'est travailler dans un environnement bruyant. C'est courir à droite, à gauche pour gérer les gosses, les machins, les trucs. C'est ne pas avoir la lumière du jour toute la journée. C'est un stress métabolique monstrueux de ne pas s'exposer à la lumière. Enfin, le stress, il se cache dans plein de choses. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Elle était née en 1898. Elle est morte quand j'avais 14 ans. Et pendant toutes mes vacances, de ma naissance jusqu'à mes 14 ans, je partais en Italie, dans les montagnes du Piémont, où mon arrière-grand-mère avait une maison. Et je passais mes 2 mois de vacances avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère dans le Piémont. Et en fait, je réfléchis souvent à leur niveau de stress à eux, tu vois. Où ils étaient dans la nature, où ils se levaient avec le soleil, où ils se couchaient avec le soleil, où leur seule préoccupation, c'était de savoir s'il allait pleuvoir et s'il fallait ramasser le foin qu'ils avaient coupé la veille ou s'ils pouvaient le laisser sécher encore. Je ne dis pas qu'ils avaient une vie facile, hein, parce qu'ils ne mangeaient pas forcément tous les jours à leur faim, parce qu'il fallait s'occuper des bêtes, parce que pour aller faire 2 courses, bah, ils ne prenaient pas la voiture pour aller au supermarché, hein, ils avaient 10-15 bornes à faire pour descendre au village avec la mule pour faire le ravitaillement, etc. Ils n'avaient pas une vie facile, mais il y avait beaucoup moins de stress. Il y a un truc que les gens. Alors, je ne sais pas si toi, tu le fais. Moi, je dis toujours à mes clientes, quand elles font du sport, de faire du sport sans écouteurs. Parce qu'en fait, ce petit bruit-là que tu mets juste à côté de ton cerveau quand tu t'enfonces ton écouteur avec ta musique, c'est un stress. C'est un stress monstrueux pour ton cerveau pour 2 raisons. La première, c'est que tu te retrouves avec des vibrations à un endroit où tu n'es pas censé en avoir, hein. Et la deuxième, c'est que ton cerveau n'entend plus ton environnement et ton cerveau a besoin d'être en alerte pour savoir ce qui se passe autour. Et en fait, on vit dans un environnement où on sort de la maison avec des lunettes de soleil pour surtout pas être ébloui, avec un casque sur les oreilles pour surtout pas entendre. On voit pas la lumière du jour, on bouge pas. Enfin, on fait rien pour contrebalancer les effets du stress de la vie moderne. Au contraire, on a même tendance à les accentuer dans notre mode de vie de tous les jours, quoi.
Bon, ça fait 1h07 et les gens viennent d'arrêter le podcast pour écouter ce qui se passait autour d'eux en courant. Je te remercie, Sophie.
C'est bien, ils ont écouté 1h07 déjà.
Ouais, bah, t'aurais dû te rappeler tes années de marketing. Hein. Faut arriver jusqu'au bout, mon taux de rétention, ça va pas être terrible. Non, donc restez à écouter la suite. On est presque sur la fin. Mais il y a un truc, je voulais te dire, parce que je trouve que c'est intéressant. J'aime bien le côté un peu gamification que tu as présenté dans ton livre aussi pour finir là-dessus. Parce que
Bah, tu sais, je m'adressais à une certaine cible, donc je leur ai parlé comme ils aiment qu'on leur parle.
Et le côté booster, en fait, j'aime bien le côté booster parce que moi j'ai beaucoup joué à Mario, tu vois, même à Noël, j'ai eu Mario Bros sur ma Switch, tu vois,
Mario Kart, tu sais, quand tu prends le petit champignon, là.
Voilà, exactement, on est tous à la
Voilà.
recherche des champignons, de l'étoile, du petit raccourci, du petit truc comme ça, etc. et tout. Et en fait, c'est que si toute l'industrie alimentaire, parce que je parle souvent de l'histoire. Moi, je suis choqué quand je vois des coquillettes au beurre en surgelé au supermarché. Et je me dis, mais pourquoi ça existe ce truc-là? Jusqu'au jour où j'ai entendu un mec comme Frédéric Lopez, tu sais, le truc en terrain inconnu là, qui disait qu'entre deux plats préparés, il prenait celui qui se chauffait en 30 secondes plutôt que celui en 40 secondes. J'ai dit là, tu vois, il raconte ça
Une autre
dans.
galaxie, là, on est dans une autre
Voilà,
galaxie.
mais ça veut dire que c'est un truc dans ce monde qui existe. C'est comme les plats en livraison, c'est comme les plats préparés, le surgelé, c'est comme tout en fait. Tout est en monde de raccourci
Plus vite,
où
plus vite,
on
plus
est
vite.
feignant. En plus, on ne va pas faire les efforts, on peut tout nous amener. Et donc, je me dis, je me suis dit, je vois les boosters là comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant de se dire, est-ce que toi, tu as des petites étoiles magiques, tu vois, des petits raccourcis ou des choses comme ça, ou est-ce
Ouais,
qu'on
le
peut pas les
beurre.
avoir?
Moi, c'est le beurre.
Ouais.
Moi, mon raccourci, c'est le beurre. Non, très clairement. En fait, Je pense que avant d'avoir les boosters, il faut déjà que tu sois en état de les recevoir. C'est-à-dire que vouloir des boosters mais ne pas arrêter les choses qui sabotent ta productivité, c'est contre-productif. Enfin, c'est débile, mais tu peux pas vouloir un booster si tu te trimballes des trucs hyper lourds derrière qui te permettent pas d'avancer. Donc la toute première chose, c'est déjà d'éliminer les vilains et de faire super attention à ces fameux agents doubles. Après, dans les boosters, bah, clairement, avoir un apport suffisant en protéines, c'est hyper important. Hein. Ça fait vraiment partie des choses qui boostent ton métabolisme. Et après, le gras, pour moi, c'est quelque chose qui a été très longtemps diabolisé. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cholestérol qui cause les maladies cardiovasculaires, hein. Que la plaque d'athérome, elle se développe dans les veines parce que tu as des veines qui subissent de l'oxydation, de la glycation, et du coup, ça vient réparer les veines. Et que c'est pas la faute du cholestérol. Il y a même une étude qui est parue là, qui a été faite, qui a duré 35 ans, qui a démontré que les centenaires étaient ceux qui avaient le taux de LDL le plus élevé, ce qui va à l'encontre de toutes les croyances qu'on peut avoir sur ce mauvais cholestérol, avec des gros guillemets. Et en fait, on a diabolisé le gras, mais le gras, c'est une source d'énergie incroyable. Et clairement, moi j'ai vu la différence avec le morceau de beurre dans le café. Ça faisait toujours un petit peu grimacer mes collègues à l'époque où je travaillais sur Paris et que j'allais à Paris, mais des fois j'avais pas le temps de trop bien manger à midi, c'était un peu la course, etc. Je me faisais un café, j'ouvrais le frigo, je prenais un morceau de beurre salé, bien souvent parce qu'à Paris il y avait beaucoup de beurre salé et beaucoup de Bretons dans la boîte, donc le beurre qu'on trouvait dans le frigo c'était du beurre salé, tant pis. Je mettais l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre dans mon café, je faisais fondre et je buvais ça, et c'était un vrai booster. Et je pense que la diabolisation du gras, alors, elle a entraîné une baisse de la consommation des protéines animales parce que les protéines d'origine animale sont souvent grasses, hein, c'est aussi le pendant du truc. Mais la diabolisation du gras a privé l'humanité d'une source d'énergie incroyable, c'est-à-dire que le gras, les bons acides gras essentiels, le cholestérol, sont essentiels à la santé hormonale, sont essentiels à la connexion entre nos neurones, sont essentiels à des tas de processus physiologiques, cognitifs. Et c'est vraiment là pour moi, enfin, manger du beurre, quoi. Tu vois, moi j'ai deux trucs, c'est mange ta viande et mange ton beurre, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
Eh bien écoute, à manger le beurre. Alors ce qui va faire plaisir aux Bretons, parce que alors, tous les Bretons qui écoutent le podcast, quand on a dit bien du beurre, donc on est bon, tu vois, on est...
On est bon. Mais Olivier Maria, il disait du beurre et des bornes.
Ouais,
Tu
et
vois?
d'ailleurs il y a une anecdote, et je la raconte souvent cette anecdote, où il montait sur son compte Instagram qui mange une plaquette de beurre pour repartir sur son vélo. Je dis, voilà. Mais quand je raconte ça, les gens me disent, mais attends, mais c'est pas possible ton truc, etc. et tout, et c'est n'importe quoi et autres. Et je dis, oui, mais le beurre, faudrait peut-être regarder aussi les productions, parce qu'il y a beurre et beurre aussi. Après, je pense,
Ah bah oui, bien
c'est
sûr.
une grande analyse, avec une grande discussion quand avec ma femme, parce que ma femme fait du ghee, tu sais. Et
Oui.
le ghee entre les différents beurs n'a pas du tout la même tête. Mais alors
Ouais.
vraiment, il n'est vraiment pas du tout la même
Ouais,
tête. On voit que les
ouais.
taux, que la composition, les compositions en eau, lactose et compagnie sont totalement différentes parce qu'ils n'ont pas du tout la même tête alors qu'ils sont faits exactement de la même manière. Donc, ce qui montre qu'il
C'est ça.
y a quand même des beurs qui sont très
Ouais.
différents. De même que j'ai souvent des discussions, on me demande souvent tu sais, mon avis sur le skyr, les choses comme ça, justement pour cet apport en protéines.
Oui, mais quitte, tu manges du yaourt à la grecque, hein? Au moins, il y a du gras aussi
Voilà, il y
dedans.
a du yaourt à la grecque, il y a du gras, tu vois, et puis on voit, tu sais, le fromage blanc allégé, puis à côté, tu regardes les trucs, tu dis tout. Et tu vois, l'autre jour, au marché, chez le fromager, j'ai acheté un fromage blanc, et j'ai pas l'étiquette, tu vois, parce qu'il le fait, tu sais, c'est des
Oui,
grands
ben
pots
non.
et tout, etc.
Oui,
Mais alors, qu'est-ce qu'il est bon? Et alors,
oui.
on va partir en exploration, on va lui demander de voir l'étiquette quand même, et je suis assez persuadé qu'il est beaucoup plus riche en protéines, qu'il est plus riche en gras aussi, mais
Ouais.
le constat, c'est que déjà, on a besoin d'en manger moins.
T'en manges moins, mais t'en manges moins,
Donc,
mais bien
finalement, même
sûr.
s'il est un peu plus cher, eh ben, on est plus rassasié et je pense qu'il est beaucoup plus
Et le
nourrissant.
goût, le plaisir.
Voilà.
Enfin, moi, pareil, depuis que j'ai acheté ma grange en Corrèze, j'ai découvert une marque de produits Limousin. C'est une laiterie dans le Limousin qui commercialise ses produits dans le Limousin et ils font un fromage blanc. Ils le font en 0%, en 3,2% et en 7,9%. Et moi, je prends le 7,9% parce que c'est celui qui est le meilleur en termes de goût, en termes de texture, en termes. Enfin, et il n'y a pas que. Le gras, enfin, le gras, c'est la vie. C'est un cuisinier, il sait qu'il y a un savant mélange de gras et de sel à faire pour qu'un produit soit appétant, pour qu'il révèle toutes ses saveurs. Et mettre du gras, c'est aussi prendre plus de plaisir quand tu manges quelque chose. Une viande toute sèche ou une viande avec un morceau de beurre qui fond dessus, ça n'est absolument pas la même chose en termes de goût, en termes de texture. Tu ne salives pas de la même manière, tu ne mâches pas de la même manière. Donc, manger du beurre, quoi.
Ouais, éviter juste de le faire griller.
Voilà, éviter de le faire brûler, c'est mieux.
Éviter de le faire brûler. Non, et puis je crois que la grande leçon de l'histoire, hein, si tu me permets une conclusion, ça serait de dire quand même que il y a plein de sources, il y a plein de mauvais gras dans l'alimentation, et on revient sur l'ultra-transformation et tout, la junk food, le sucre, etc. Enfin, il y a plein de ces mauvais sucres et ces mauvais gras. Et si on va aller chercher à les enlever, derrière, les autres gras qu'on va aller chercher, et qui sont dans des bonnes. Notamment des aliments vrais, hein, parce que la viande,
C'est
elle a du
ça.
gras, c'est naturel. On peut dire les œufs, tu vois, mon invité précédente m'a dit c'est un super aliment, l'œuf, etc.
Ah,
Et
mais l'œuf,
quand
c'est
on
un super
regarde,
aliment. Ouais.
bah oui, il y a du gras, oui,
Il y a de la
ça t'a
choline, il y a
décrié, mais il y a de la
plein de
choline
choses
aussi pour le
dedans.
cerveau et pour les femmes enceintes, c'est super important aussi et tout. Et c'est vrai que le problème, c'est que si on englobe tout dans la même famille, ça va pas. Et si on va faire un tri, c'est pour ça que, tu vois, j'aimais bien qu'on parle d'Anthony Fardet en revenant sur le vrai, parce que finalement,
Et oui.
De se dire je mange un aliment vrai, qui a son gras, qui a ses apports en acides aminés, qui a tous ses apports, etc. Et c'est le reste des mauvais gras qui sont apportés par l'industrie et tout, que eux, il faut les chasser.
Les mauvais gras, les mauvais sucres, les mauvais glucides.
Voilà.
C'est, on en revient même, les glucides. On parle souvent, je parle des fruits et je dis qu'il faut éviter d'abuser des fruits. Et les gens me disent, ah, mais dans les fruits, il y a des vitamines. Alors déjà, les fruits n'ont pas l'apanage des vitamines, messieurs, dames. Il y en a dans les légumes et dans la viande aussi, des vitamines. Et même de la vitamine C dans le bœuf. Incroyable. Mais au-delà de ça, les fruits aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les fruits d'il y a 100 ans. Et ils viennent du bout du monde, ils sont croisés pour être toujours plus sucrés, pour plaire aux consommateurs. On en trouve en toute saison, etc. Si tu restes dans cette idée de vrai, d'Anthony Fardet, tu manges des végétaux locaux et de saison.
Voilà.
Et là, tu es dans quelque chose de parfait, en fait.
Bah écoute, c'est une belle conclusion. Hein? Bon, si ce n'est qu'il reste quand même un petit mot à dire pour les gens qui sont restés jusqu'ici, c'est où te retrouver. Alors bien sûr, et je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, mais là pour ceux qui sont en train, tu vois, d'écouter, ils vont se dire, qu'est-ce que je tape sur Instagram? Parce que tu as deux comptes Instagram quand même.
En fait, j'en ai quatre des comptes
Quatre?
Instagram.
Ah oui. Oui, parce que oui. Et puis là,
Oui,
je
parce
crois
que
que je
j'ai
les suis
celui de
tous.
la grange, j'ai celui du camion, j'ai celui perso, j'ai celui nutrition. Non, en gros, le mieux, c'est de taper sophiegironi.coach.
Ouais.
C'est mon URL de base. À partir de là, tu découvres mon programme, tu découvres mon blog où j'explique plein de choses sur l'alimentation, tu découvres mes podcasts, tu découvres mes bouquins. Voilà, c'est si tu t'intéresses à la nutrition, tu cherches sophiegironi.coach et là, tu as tout. Si tu t'intéresses à la van life, si tu t'intéresses au potager, si tu t'intéresses à la photo, tu cherches juste Sophie Gironi et tu me trouveras aussi parce que je suis à peu près partout. Mais globalement, sophiegironi.coach, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, c'est mon site internet, il y a absolument tout dessus.
Ouais, c'est vrai. Il faut suivre le Gary le camion, c'est intéressant les aventures. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la côté coach. Donc, je mettrai bien entendu le lien. C'est vrai qu'il y a tout en plus. Hein. T'es vraiment quelqu'un du web. Hein. C'est pour ça on
Ah
ne
bah
rate
ouais.
pas les URL, les trucs dans tout. C'est tout câblé. Quand on cherche, on peut pas se tromper. Et en plus, je m'étais fait réflexion un jour. J'ai vu ton site et je te le dis comme ça. J'ai vu ton site et j'ai dit, ouais, beau son site et tout, il est chouette et tout, ce quoi elle l'a fait, et puis je regarde en bas, je dis ah bah c'est un podia, je dis comme quoi des fois il faut pas s'embêter,
Non, faut pas
bien gérer
s'embêter.
certains outils
Ça marche très
rendre
bien.
service, et j'ai dit bah tiens effectivement, tu sais je trouvais qu'il était beau et tout, que ça sortait bien, que c'était tout, j'ai dit ah ça y est bon, et oh comme quoi moi qui ai fait des années de WordPress et que des fois j'ai un petit peu honte, tu sais, de me dire, allez, mon podia, je mets d'abord à jour mon podia, mes fiches de vente dessus et tout. Bah, finalement, tu vois, je me suis dit, ben, je crois que je suis pas le seul à avoir cette réflexion-là au bout d'un moment,
Ouais.
d'aller à l'essentiel sur certaines choses. Surtout que, et je dis, pour ceux qui veulent s'intéresser à la van life, à ton mode de vie, comment tu travailles et tout, ton organisation, il y a des trucs qui sont super intéressants. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de
Non, on
cet
en
épisode.
reparlera une autre fois.
Mais voilà, faudrait que je t'invite sur mon autre podcast, Solopreneur, parce que je pense que dans l'exemple de Solopreneur, c'est vraiment super intéressant. Et sur ce,
Ouais.
donc, moi, bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens pourront retrouver. Tu as des ressources gratuites aussi pour ceux qui veulent découvrir la partie plutôt. Tu as des listes d'aliments, tu as des choses comme ça, des recettes et tout. Hein. Donc,
Ouais,
tu as
tout à fait.
bien sûr, hein, tu t'envoies des mails aussi, avec plein d'informations et tout
J'ai
pour
des
ceux qui sont
newsletters
intéressés.
toutes les semaines,
Voilà, tout
plein
ça.
de trucs.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, le podcast, bien entendu aussi. Moi, je mets le lien bah, vers ton site, comme ça les gens pourront tout suivre.
Ouais.
Je te remercie beaucoup, Sophie, pour
Merci
ces
à toi,
éclairages,
Bertrand.
pour cette vision et tout, pour cette discussion sur tous ces aliments-là. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous le savez, une semaine sur deux, c'est les capsules plutôt sur des petites problématiques. Et une semaine sur deux, c'est les interviews plus longues. Et donc la semaine prochaine, on sera plutôt sur une capsule sur les problématiques. Et n'hésitez pas à vous regarder dans les notes de l'épisode, il y a un petit lien vers un formulaire. Et puis vous pouvez remplir, vous pouvez poser des questions. Comme ça, moi, ça me permet d'aller chercher les réponses aux questions que vous posez. Et puis n'oubliez pas, petite note 5 étoiles sur Spotify et et sur Apple Podcast. Et ainsi que vos petits. Vous pouvez mettre des avis sur les épisodes sur Spotify pour ceux qui écoutent sur Spotify. Moi, j'aime bien voir vos commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je te remercie encore une fois de plus, Sophie, pour toutes les informations. Ciao,
Ciao
ciao!
Bertrand!
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.